journal vous est présenté par Diane Berger. Bonjour Diane.
Bonjour, bonjour à toutes et tous. Un journal consacré en large partie à la situation au Proche-Orient. 300 drones, missiles et roquettes lancés cette nuit contre Israël. Après cet assaut inédit de l'Iran, quelles leçons tirer pour la suite? La communauté internationale redoute aussi un embrasement de la région. Les Américains ont d'ores et déjà fait savoir qu'ils n'épauleront pas Israël si son armée choisit de riposter. Dans l'actualité également, les difficultés de l'armée ukrainienne. Les troupes russes grignotent du terrain ces derniers jours. Et puis en France, de jeunes migrants sans abri occupent le centre culturel de la Maison des Métallos à Paris. On les écoute à la fin de ce journal. Le hurlement des sirènes et les lueurs des drones dans la nuit. Nuit d'angoisse en Israël face à l'attaque menée par l'Iran. Au total, 300 projectiles de toutes sortes ont été lancés vers le sol israélien. Des drones, des missiles, des roquettes. Les deux tiers viennent du sol iranien. Le reste de groupes armés alliés du régime de Téhéran, les Houthis du Yémen, le Hezbollah libanais. Ce matin, l'armée israélienne a annoncé que 99% des tirs ont été interceptés, l'assaut repoussé. Mais les questions sont nombreuses après cette opération militaire inédite. C'est la première fois que le régime iranien s'en prend aussi directement à l'État hébreu. Bonjour Thibault Lefèvre.
Bonjour Diane, bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondant envoyé spécial permanent en Israël. Quels enseignements tirer de cette nuit ?
Eh bien, pour la première fois depuis l'attaque irakienne en 1991, le sol israélien a été visé par un État souverain. Alors, le premier enseignement, c'est qu'Israël et l'Iran s'affrontent désormais directement. Et c'est donc une nouvelle étape dans le conflit larvé qui oppose depuis près d'une vingtaine d'années l'État hébreu et des puissances mandatées par Téhéran, le Hezbollah au Liban, les milices chiites en Irak et les Houthis au Yémen. Il va falloir maintenant guetter la réaction israélienne qui pourrait encore aggraver les tensions. Deuxième enseignement, des États arabes sunnites comme la Jordanie ont défendu Israël en abattant des drones et des missiles iraniens. Et un axe israélo-américano-arabo-sunnite est peut-être en train de naître. L'attitude de l'Arabie saoudite, alliée des États-Unis, est à surveiller. Enfin, à Gaza, c'est une victoire pour le Hamas et son leader Yahya Sinwar. Il espérait depuis 6 mois une offensive franche d'autres ennemis d'Israël comme le Hezbollah et une régionalisation du conflit. Avec l'attaque de cette nuit, la guerre prend évidemment une dimension internationale.
Merci beaucoup Thibault Lefèvre pour ces explications. Après plusieurs heures d'arrêt, la circulation des avions reprend dans la région. Israël, l'Irak et la Jordanie ont rouvert leur espace aérien ce matin. Mais même si la situation semble apaisée ce matin, elle reste suivie de près par les États-Unis. Nous en parlons avec notre correspondant à New York, Loïc Loury. La Maison-Blanche était sur le pied de guerre.
Oui, absolument, avec un Joe Biden revenu en urgence de son week-end pour suivre cette situation, pour consulter son équipe de sécurité nationale depuis la Maison-Blanche, de longues heures qu'il aura passées dans la Situation Room, où l'on a pu voir le président installé avec son état-major. Il est dans son rôle de chef des armées, rappelons au passage que nous sommes en année électorale aux États-Unis. Après ces consultations, quoi qu'il en soit, Joe Biden a discuté avec Benjamin Netanyahu pour lui redire que les États-Unis aideraient Israël à se défendre. Les Américains ont d'ailleurs intercepté des dizaines de drones iraniens et plusieurs missiles. Le patron de la Maison-Blanche qui qualifie de victoire la destruction de l'écrasante majorité des engins envoyés par Téhéran.
Le message lui reste le même, un soutien inébranlable à l'égard d'Israël.
Oui, avec deux nuances toutefois. Washington demande à son allié d'abord de le prévenir de sa future réponse contre l'Iran. Les États-Unis ont été pris de court par l'attaque israélienne du 1er avril contre le consulat iranien de Damas et aimeraient désormais être informés en amont. Lloyd Austin, le secrétaire à la Défense, en a discuté avec son homologue israélien. La seconde, c'est que les Américains, sans grande surprise, ne participeront pas à la riposte d'Israël, quelle qu'elle soit, histoire de ne pas être aspirés dans ce conflit. Biden veut éviter l'escalade et devra contenir son allié israélien tout en le garantissant de son soutien. Il compte dans l'immédiat activer ses leviers diplomatiques avec la convocation dès aujourd'hui d'une réunion des dirigeants du G7. Sachez que le Conseil de sécurité se réunira lui aussi dans l'après-midi, ici même à New York.
Loïc Loury, correspondant de France Culture aux États-Unis. La crainte d'une escalade dans tous les esprits, on évoquait à l'instant les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Parmi les autres réactions internationales, le chef de l'ONU condamne l'attaque iranienne qui risque de provoquer des conflits à plusieurs points du Moyen-Orient. Le Caire également met en garde contre un risque d'expansion régionale. Et pour le Quai d'Orsay, l'Iran franchit un nouveau palier dans ses actions de déstabilisation. L'Iran, qui l'assure ce matin par la voix de sa mission officielle aux Nations Unies, cet assaut était justifié après l'attaque de son consulat à Damas. D'après Téhéran, l'affaire peut être considérée comme close. Fin de citation. Et dans ce contexte, pas d'amélioration sur l'autre front qui préoccupe Israël, à Gaza. D'après le Mossad, le renseignement israélien, le Hamas aurait rejeté le dernier projet de trêve. Hier soir, le mouvement palestinien expliquait avoir insisté sur plusieurs conditions pour lui indispensables. Cesser le feu permanent, retrait complet de l'armée israélienne de Gaza et intensification de l'aide humanitaire. L'actualité au Proche-Orient ne doit pas nous faire oublier la guerre en Ukraine et cette alerte du chef des armées de Kiev. La situation de ses troupes s'est considérablement détériorée sur le front Est ces derniers jours. Agathe Mahuet, l'offensive russe en face prend de l'ampleur.
Et notamment grâce aux conditions météo. Fini la neige et la boue. Il fait un temps quasi estival depuis 15 jours, très favorable à la progression des chars russes. Liman, Bakhmout, voilà les positions ukrainiennes qui sont particulièrement attaquées par ces groupes d'assaut soutenus par des blindés, d'après le général Alexandre Sirski. Moscou revendique aussi un nouveau village près d'Avdivka. Donc le grignotage du territoire ukrainien par la Russie se poursuit. Et cela arrive peut-être au pire moment pour Kiev, puisque l'Ukraine subit une crise de munitions et de systèmes de défense anti-aérienne, ses installations énergétiques également bombardées sans relâche. Le pays fait donc face aussi à une réelle menace sur l'ensemble de son réseau. Une séquence critique pour l'Ukraine, alors que l'aide promise par ses alliés occidentaux se fait toujours attendre.
Agathe Mahuet. Drame migratoire au large du Brésil. 20 corps de migrants haïtiens ont été retrouvés dans une embarcation qui flottait à la dérive le long de la côte nord. Les cadavres présentaient des signes de déshydratation et de faim. En France, des sans-abri occupent un espace culturel de la ville de Paris, la Maison des Métallos, dans le 11e arrondissement. Elle est investie depuis une semaine par le collectif des jeunes du parc de Belleville. Une centaine de migrants sans domicile qui veulent interpeller les élus sur leur précarité. Fanny Imbert.
Logement, école, santé, une grande banderole flotte au-dessus de l'entrée qui accueille d'habitude les spectateurs. Dans la cour de la Maison des Métallos, un groupe de jeunes prépare l'assemblée générale de la journée. Alcini et Miller Kelly sont parmi eux. Lui est guinéen, elle est congolaise. Ils sont arrivés en France il y a quelques mois.
On essaie de s'organiser, il y a des délégués, on fait des réunions d'abord.
On veut un logement, on veut un ticket de transport, on veut l'école, parce que rester comme ça, c'est... Au niveau mental, c'est trop dur. On veut vivre mieux.
Dans la salle de répétition du théâtre, des couvertures et des matelas au sol accueillent 100 personnes par nuit. Pour tous ces jeunes, la reconnaissance de minorité a été rejetée. Ils sont donc en attente d'un recours auprès du tribunal pour enfants. En attendant, la préfecture leur a proposé d'être relogés, mais en région. Et pour Alcini, il n'en est pas question.
C'est très important pour nous de rester à Paris ici. Ton avocat aussi, il peut t'appeler au tout moment. Si tu es hors de Paris, tu es comme à Marseille comme ça. Comment tu vas faire pour gérer ça? Faudra qu'on recommence à zéro là-bas.
C'est la 7e fois depuis décembre qu'un bâtiment municipal est ainsi occupé, notamment des lieux culturels comme l'Académie du Climat ou le 104. Pour Jeanne, soutien du collectif, ces choix ne sont pas anodins.
Bien sûr, ça a été un peu surprenant pour l'équipe ici, mais ils ont été très facilitants. Et on a aussi reçu le soutien d'un des artistes qui est en résidence ici tout le mois de mai, qui s'appelle Babix. On sait que c'est des lieux qui ont des engagements écologiques, artistiques, culturels et aussi politiques. Et on se doute que les directions ou que les équipes seront peut-être sensibles et voudront créer des ponts avec la lutte que les jeunes portent.
De son côté, la mairie de Paris interpelle l'État, car c'est bien lui qui gère l'hébergement d'urgence. Elle rappelle que les équipements municipaux mis à disposition ne sont que des solutions d'appoint et demande la mise à l'abri immédiate des jeunes concernés.
Un reportage de Fanny Imbert. Les écologistes valident leur liste définitive pour les européennes. Conduite par Marie Toussaint, elle comporte plusieurs figures du parti, notamment trois ex-candidats à la présidentielle, Yannick Jadot, Eva Joly et Noël Mamère. On y trouve aussi l'ancienne gilet jaune Priscilla Ludowski. Le mouvement est en difficulté dans les sondages, sous la barre des 10% d'intention de vote pour l'instant. Enfin, un mot de météo. Maintenant, le ciel sera moins ensoleillé aujourd'hui, en particulier sur la moitié nord du pays. Le ciel bleu résiste en revanche encore un peu peu dans le sud. Et les températures reviennent à un niveau un petit peu plus normal pour une mi-avril. Les minimales ce matin vont de 7 à 12 degrés et cet après-midi, il fera entre 15 et 20 degrés sur toute la façade ouest autour des 22-24 dans les terres et jusqu'à 29 degrés sur la côte méditerranéenne. Il est maintenant bientôt quasiment 9h10 sur France Culture. Le prochain point sur l'actualité, ce sera dans moins d'une heure.